Josué 20. Nous arrivons dans les derniers chapitres de ce livre qui nous raconte comment les Israélites d'antan ont pris possession de la terre promise que Dieu avait donc promis à Abraham depuis longtemps, et nous les voyons enfin arriver et prendre possession de ce territoire qui découlait de lait et de miel. Encore une fois, pourquoi étudier l'Ancien Testament et toutes ces histoires antiques? C'est parce qu'elles ont été écrites pour notre enseignement. Et nous avons vu qu'en fait, Josué, c'était un type, c'était une préfiguration de notre Josué, Jésus-Christ. Le mot, en fait, Jésus, c'est un mot grec. Jésus s'appelait Joshua, et le même Josué, c'était Joshua, le salut de Dieu ou Dieu sauve. Et nous avons vu comment la terre promise, c'était pas le paradis, mais c'était la vie remplie de l'esprit que le Seigneur a pour chacun de nous. Nous sommes sauvés de notre esclavage au péché qui était symbolisé par la vie en Égypte, au passage de la mer Rouge. Mais ce n'est pas le tout d'être croyant, encore faut-il mettre en pratique, s'accaparer, s'approprier toutes les promesses de Dieu. Et nous avons vu comment les tribus s'étaient réparties le territoire d'après la volonté de Dieu exprimée par le tirage au sort de ces différents territoires. Seules deux personnes qui avaient franchi la mer Rouge, Josué et Caleb, font partie de ces Israélites. Les autres ont péri dans le désert en tournant en rond. Par quoi? Par manque de foi. Le manque de foi, c'est une chose, nous allons reparler, qui est une chose la plus terrible dans la vie du chrétien, la vie de tout homme, c'est de manquer de foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous avons déjà rencontré dans la Bible. Il est question des cités de refuge, des villes de refuge dont nous avons parlé dans l'Exode, le Deutéronome et le Livre des Nombres. Lorsque Dieu répète les choses, c'est en général parce qu'elles ont beaucoup d'importance. Toute parole, toute virgule dans la parole de Dieu est importante, mais là, lorsqu'un concept est répété de façon si précise et si caractéristique, il est bon d'y prêter attention. On va lire le chapitre 20 ensemble. Je lis dans la version à la colombe. L'Éternel parla à Josué et dit: parle aux Israélites, dis-leur, établissez pour vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par l'intermédiaire de Moïse. Le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement par mégarde pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront un endroit pour résider avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas le meurtrier entre ses mains, car c'est par mégarde qu'il a tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu en jugement devant la communauté, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kiriath Arba qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils désignèrent Betser dans le désert, sur le plateau, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes assignées à tous les Israélites et à l'immigrant en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement s'y enfuit et qu'il ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant la communauté. On va s'arrêter là. Ce concept, nous l'avons déjà expliqué. Nous allons revenir juste un peu sur ce que c'était. À l'époque, il n'y avait pas de force de police en Israël. Il n'y avait pas de service d'ordre. Et donc, la justice était souvent exécutée par les parents d'une victime. Et si quelqu'un tuait sciemment, avec préméditation, une autre personne, la personne la plus proche de la famille de la personne qui avait été tuée avait le droit de prendre sa revanche. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que Dieu a institué la revanche, le principe de la revanche, de même qu'il n'a pas institué le principe de la polygamie qu'on voit dans la Bible. Simplement, Dieu s'accommodait pour un temps des pratiques et essayait de les contenir. Vous entendez souvent l'expression « œil pour œil et dent pour dent ». L'idée, ce n'était pas de réagir systématiquement « si on me fait ça, je vais te le faire », mais c'était pour que si on m'avait pris un œil, je n'allais pas tuer l'autre personne, mais que j'avais le droit de faire une action d'égale importance. C'était une limite, ce n'était pas une incitation, c'était au contraire une restriction. Et l'idée, c'était que, on l'avait vu dans le livre des Nombres notamment, c'est qu'il y avait des fois où on pouvait commettre un homicide involontaire. La justice de Dieu fait la différence entre un meurtre involontaire, volontaire et un homicide involontaire. Un accident de voiture, par exemple, vous conduisez et votre meilleur ami trouve la mort dans un accident dont vous êtes responsable. C'est pas pour autant que vous avez voulu tuer, commettre un meurtre sur la personne de votre ami. J'étais en vélo il y a quelques semaines avec Tonio et on rentrait tous les deux après le culte et il allait tout droit. Moi, j'étais devant lui. Il pensait qu'on allait prendre une certaine direction. Moi, je m'attendais à tourner à gauche. J'ai tourné à gauche juste devant lui. Et il a fait une cabriole, heureusement il ne s'est pas fait mal. Et c'est vrai que c'était presque un meurtre s'il avait rencontré une voiture qui ne s'était pas arrêtée. Mais ce n'était pas du tout volontaire, Tonio, je te promets. Et donc, dans ces cas-là, pour protéger l'innocent, la personne qui n'était pas coupable, l'idée c'était qu'on allait instituer des endroits. Un peu comme quand on est enfant et qu'on joue à chat et qu'on a un endroit qui est la base où on est protégé. Il y avait ces endroits qui étaient répartis dans le territoire d'Israël de façon que c'est en une journée de marche rapide ou de course à pied, on puisse atteindre ce refuge, ces cités de refuge. Sachant que si on a quelqu'un qui vous court derrière pour vous tuer, on a tendance à aller un peu plus vite que d'habitude. Je ne sais pas si vous avez jamais couru parce que quelqu'un voulait vous faire du mal, mais on court vite. On a des ressources incroyables, de l'adrénaline qui vient, je ne sais pas ce que c'est, tout ça, mais je me souviens en mai 68, j'habitais en plein quartier de la Sorbonne, j'étais interne, au moment des événements des charges de police. Et je ne participais pas aux manifestations, mais là-bas, si on avait des jeans et des baskets, on était un insurrection, on était un révolutionnaire. Et les forces de police vous couraient après. Et je me souviens avoir détalé quand des policiers, avec des CRS avec des matraques m'ont couru après, et je vous assure que j'ai couru vite. Et donc l'idée, c'était qu'il y en avait assez dans le territoire où ils pouvaient se réfugier. Et puis là, le proche parent ne pouvait plus vous toucher légalement. Si vous ressortiez, il avait le droit de vous assassiner, de prendre sa revanche pour la personne qui était morte. Mais tant que vous étiez là, vous étiez tranquille. La seule chose qui vous permettait de ressortir et d'avoir la paix, c'était la mort du grand prêtre. Lorsque le grand prêtre d'Israël mourait, à ce moment-là, il y avait une espèce d'amnistie et vous étiez libre de repartir, et là, la personne n'avait plus le droit de vous toucher, d'autant que le temps ayant passé, les personnes s'étaient calmées, avaient réalisé en fait que malgré le chagrin, c'était pas vous qui étiez responsable. Donc il y avait ces cités de refuge avaient une signification bien pratique. Juste une parenthèse sur l'idée de la peine de mort, le fait que la Bible permettait à quelqu'un de la famille de prendre sa revanche Ça montre encore une fois que s'il est dit que dans le sixième commandement, tu ne tueras pas, en fait, il faudrait traduire vraiment, tu ne commettras pas de meurtre. Commettre un meurtre, c'est-à-dire préméditer et sciemment, vicieusement tuer une autre personne de sang-froid. Mais il est dit que celui, dans la Genèse, dès le départ de la parole de Dieu, il dit celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Dieu a institué la peine capitale. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, sous l'influence de la psychologie humaniste, sous l'influence aussi d'une mauvaise justice, on a tendance à dire que on ne doit pas tuer l'autre. On rejette en fait la sagesse divine. Le fait que la peine de mort ne soit mal appliquée, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas la bonne chose à faire dans certains cas. Et ce qui est intéressant, et j'ai déjà évoqué, la même psychologie humaniste qui a un problème avec la peine de mort n'a aucun problème avec la peine de mort lorsque la mort se passe avant les 9 mois de conception de l'enfant. Le bébé dans le ventre de sa maman, lui, il n'a pas le droit à cette philosophie humaniste, cette psychologie humaniste. Par contre, la peine de mort, et on voit les abus ridicules auxquels cette psychologie humaniste conduit aujourd'hui, où c'est les victimes qui sont attaquées, qui sont poursuivies en justice. Il y a quelques jours, je ne sais pas si vous en avez parlé la semaine dernière, il y a eu une agression dans notre immeuble, en plein jour, à 8 heures du soir. Jerry était là. 3 jeunes casqués, un casqué et 2 cagoulés, avec une arme à feu et un coup de poing américain, sont rentrés, frappés à un premier étage en face de chez nous. Je crois que la porte de chez nous était ouverte, mais le Seigneur nous a protégés. Ils sont montés au 3e étage en faisant croire à la personne que c'était le voisin du dessous qui avait une urgence. Et la personne a ouvert, ils l'ont plaqué contre terre. Il a fallu que son mari, qui a 75 ans, se décide qu'il n'y avait plus rien à perdre, qu'ils allaient soit mourir, soit se défendre, pour qu'ils partent en courant, sans demander leur reste. Et je pensais que si je les avais rencontrés, je ne sais pas quelle aurait été ma réaction, j'aurais peut-être eu peur devant l'arme à feu, j'aurais peut-être aussi essayé de les faire tomber, de mettre un croche-patte, mais j'imagine que si j'avais fait tomber une de ces personnes qui se casse le bras, j'aurais été poursuivi parce que je n'étais pas en état de légitime défense. La personne qui avait été agressée, oui, mais moi qui leur courais après, j'aurais pas eu le droit. Tout ça pour dire que la parole de Dieu dit que celui qui a versé le sang de l'homme par le sang, il doit être Genèse 9:6, par l'homme son sang sera versé. Dieu a institué la justice, a institué le gouvernement pour justement assurer l'ordre. On découvre maintenant qu'on a beaucoup de problèmes avec l'ordre et on s'étonne. Donc, un refuge, c'est le même mot que fugitif, ça veut dire fuir en arrière, ça veut dire se retirer en courant pour la sécurité. Il y avait ces cités de refuge, mais bien sûr quand on étudie la Bible, et surtout lorsqu'on voit un sujet qui est répété plusieurs fois, on doit se demander... Qu'est-ce que la Bible veut enseigner ? Jésus a dit que tout le volume de la parole parle de lui. Souvent, je vous dis, une bonne question, si vous trouvez un passage un peu aride dans la Bible, si vous lisez, et je vous encourage bien sûr à le faire régulièrement, votre Bible, une question qui va donner du relief, qui va donner du piquant, qui va vous passionner, c'est de se dire où est Jésus dans ce que je lis. Parce que toute la Bible parle de Jésus-Christ. Et bien sûr, on sait que nous l'avons chanté, « Ô Jésus, mon refuge, mon sauveur, Jésus est notre refuge ». Verset 6-18 du livre aux Hébreux, il est dit « Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, Cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchizedek. La Bible nous annonce que nous sommes tous coupables. Souvent, ces illustrations, ce qu'on appelle des préfigurations ou des types en termes de théologique, elles ont leurs limites. Et souvent, elles éclairent un aspect d'une réalité spirituelle, mais il ne faut pas les prendre jusqu'à dans tous les détails, parce qu'on peut tirer des conclusions absurdes. Et notamment dans le cas qui nous concerne, seul l'innocent était vraiment sauvé par cette provision des cités de refuge, parce qu'il allait être jugé devant un tribunal composé des anciens de la ville. Et s'il était coupable, il était aussi passible de la peine de mort. Mais, dans notre cas, nous sommes tous coupables. La Bible dit que nous avons tous péché, qu'il n'y en a pas un qui cherche Dieu, que nous sommes tous loin de la gloire de Dieu, et que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort est quelque part comme un vengeur qui nous court après toute notre vie. Il y a cette histoire que j'ai déjà évoquée d'une personne qui était dans une ville donnée et qui voit soudain la mort, son vêtement noir avec sa grande faux qui passe dans sa ville, et la personne est affolée. Elle décide d'aller le plus loin possible de cette vision de la mort. Elle part, elle voyage loin, elle se retrouve dans une autre ville, et là, quel n'est pas son effroi lorsqu'elle voit, elle sent quelqu'un lui taper sur le dos et que c'est la mort qui lui tape sur le dos. Et la personne dit, mais comment ça se fait? J'étais surpris de te voir dans l'autre ville. Je venais ici pour échapper à toi. Et la mort lui répond, moi aussi j'étais surpris de te trouver là-bas parce que j'avais rendez-vous avec toi ici. Et donc la mort, c'est comme ce vengeur du sang. Ça, c'est le terme de biblique de l'Ancien Testament. Ce vengeur de la famille qui nous poursuit. Et est-ce qu'il y a un endroit où nous pouvons nous réfugier pour être vraiment à l'abri de cette mort? Alors la mort, il y a la mort physique, mais bien plus grave, il y a la mort éternelle. La mort éternelle, c'est la séparation avec Dieu pour l'éternité. Et bien sûr, ce refuge, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus en qui nous devons prendre refuge. Lorsqu'on lit Éphésiens, on est surpris de voir comment Paul parle de « nous sommes en Christ ». En Christ, nous avons toutes les bénédictions célestes. En Christ, nous devons rester en Christ. Et donc, il est intéressant de voir aussi que ces cités de refuge, c'est Dieu qui les donnait, c'est lui qui les avait instituées, ce n'était pas l'homme qui les avait imaginées. Et de même, le salut en Christ, ce n'est pas une invention humaine, c'est Dieu qui a pourvu par la grâce, par un amour que nous ne méritons pas, cette solution à notre problème devant le péché et devant la mort. Ces cités étaient donc nommées. Dans le verset 7 et 8, on voit les six villes s'appellent Kedesh, Sichem, Kiriath Arba ou Hébron, Betser, Ramoth, Golan. Il est important de voir que les noms de ces villes correspondent en fait à une description de Christ. Kedesh, ça veut dire la sainteté. Jésus-Christ, celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Cet échange, nous n'avions pas de péché, Jésus n'avait pas de péché, mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous puissions nous revêtir de la justice de Dieu. Ça, c'est de Corinthiens 5, 21. Sichem, on en a déjà parlé, c'était entre le mont Ebal et le mont Gerizim, c'était, ça veut dire épaule en hébreu. Et l'épaule sur laquelle le gouvernement va reposer, selon Ésaïe 9.6, c'est Christ lui-même. C'est la force de Christ qui est évoquée par ce nom. L'épaule, c'est quelque chose de costaud. Hébron, on l'a vu, ça veut dire la communion avec Christ, la communion avec Dieu par Christ. Betser, c'est la défense ou la forteresse. Encore une fois, ça nous dit que nous avons la victoire en Christ, que c'est l'endroit le plus sûr au monde, c'est d'être en lui, de vivre selon ses préceptes, de penser à lui sans arrêt, d'être en lui. Ramoth, c'est les hauteurs, ça nous fait penser au fait que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et puis le mot Golan, certains pensent que c'est un cercle complet, mais d'autres disent que c'est aussi le mot joie. Et c'est vrai que les deux peuvent se retrouver en Christ. En Christ, nous sommes complets. Nous avons tout en Christ pleinement. Ça, c'est Colossiens 2.10, où Paul nous affirme cette vérité. Et nous avons aussi la joie de connaître Christ, la joie d'être sauvé, la joie d'être dans notre cité de refuge. Ce qui est intéressant, c'était la disposition, donc pour une des raisons stratégiques, il y avait trois villes d'un côté du Jourdain, trois villes de l'autre côté du Jourdain, dans chacun une au sud, une au milieu, une au nord du pays. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup plus de tribus à l'ouest du Jourdain, puisqu'il y avait 9 tribus ennemies, on l'a vu, alors qu'il n'y en avait que 2 ennemies. La tribu de Gad, de Ruben et de la demi-tribu de Manassé qui était de l'autre côté du Jourdain. Et pourtant, il y avait autant de cités de refuge pour le côté de ces 2 tribus ennemies que des autres 9 tribus ennemies. Et ça nous indique, en fait, vous vous souvenez que ces 2 tribus ennemies qui s'étaient installées de l'autre côté du Jourdain, avant qu'ils n'avaient pas franchi le Jourdain pour s'installer, ils avaient suivi pour participer aux batailles, ces tribus, en fait, n'étaient pas vraiment dans la volonté de Dieu. Dieu leur avait donné la terre promise, mais ces tribus, qui se consacraient notamment à l'élevage du bétail, avaient trouvé que Bazan, cette région à l'est du Jourdain, était parfaite pour élever du bétail. Et donc, ils avaient décidé de se dire qu'après tout, les promesses de Dieu, c'est bien, mais ce que j'ai trouvé me suffit. Et parce qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu, ils étaient beaucoup plus en proie aux attaques de l'ennemi. Il n'y avait pas le Jourdain pour les protéger. Leur vie était plus remplie de désobéissance, de carnalité, de péché, d'insécurité. Et on estime qu'il y avait beaucoup plus besoin de ces cités pour se réfugier et tous les problèmes qui pouvaient résulter de ne pas être vraiment dans la volonté de Dieu. Et on a rappelé que ça, c'est aussi une leçon pour nous. Souvent, nous nous contentons de quelque chose d'à moitié voulu par le Seigneur, alors qu'il a une parfaite volonté, une volonté parfaite pour notre vie. Et nous nous disons, « Oh, c'est pas mal, ça, c'est assez bien, je vais m'en contenter, je vais pas continuer par la foi, parce que la foi c'est fatigant, la foi on voit pas, alors que là je vois un territoire, je vois une maison, je vois un travail, je vois un homme, une femme qui peut-être sont pas chrétiens, mais qui sont gentils, et on reste un peu à l'écart de la volonté du Seigneur. Et on se promet des tas de problèmes par la suite. Ce concept de cité de refuge rejoint le fait que Dieu, dans sa parole, nous parle sans arrêt du refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse, psaume 46. Éternel, c'est à toi que je crie, je dis, tu es mon refuge. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y court et s'y trouve hors d'atteinte. Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le pauvre dans la détresse, un abri contre la pluie battante, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme la pluie battant un mur. » Ça, c'est Ésaïe 25, 1 et 4. Le groupe de jeunes qui est venu, c'était leur verset. D'ailleurs, ils ont collé quelques versets avec un R en caractère gothique pour désigner leur groupe. C'est leur verset. C'est le fait que Dieu est un refuge. Et c'est même intéressant parce que c'est un refuge non seulement pour le pauvre dans la détresse, mais c'est même un abri contre la pluie battante. Ces derniers temps à Nice, il y a eu des moments où il y a eu des pluies battantes et on court vers un endroit pour se mettre à l'abri. Le souffle des tyrans est comme une pluie qui bat un mur. L'oppression politique, et Dieu sait dans le monde s'il y a une majorité de pays où les gens sont persécutés pour leur foi, Dieu est un refuge. Et spirituellement, au sens du Nouveau Testament, il est dit que ceux qui sont en Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation pour eux. Vous êtes dans votre cité de refuge, vous êtes arrivés. Une condition, c'est qui va vous montrer si vous êtes vraiment dans votre cité de refuge ou si vous en sortez, c'est qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Est-ce que je m'imprègne de la parole de Dieu? Est-ce que je la mets en pratique dans ma vie? Ou est-ce que je me dis je suis sauvé, j'ai mon ticket de cité de refuge et maintenant je vais me promener partout où le Seigneur ne veut pas? Ça, c'est marcher selon la chair. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie, qui déclare non coupable. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. La vie du grand prêtre, pendant que le grand prêtre vivait, la personne était en sécurité dans la cité de refuge, mais le pardon, la liberté d'aller et venir, ne venait qu'avec la mort du grand prêtre. Et bien sûr, ça c'est notre grand prêtre, nous savons que c'est Jésus-Christ, et sa mort et sa résurrection nous libèrent de l'esclavage du péché. Nous sommes libres d'aller et venir, nous sommes libres en Christ. Et l'idée, bien sûr, c'est de demeurer en Christ. Demeurer en moi comme moi en vous, de même que la vigne ne peut pas porter de fruits s'il ne demeure sur la branche, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Moi, je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que nous en sommes convaincus? Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons brasser du vent, nous pouvons faire des dépenses, nous pouvons accumuler des dettes, nous pouvons gagner de l'argent, nous pouvons, mais ça ne va pas durer, ça ne va pas être quelque chose de durable devant l'éternité, ça ne va pas être quelque chose qui va compter spirituellement. Et donc, ces cités de refuge que nous rencontrons ici pour la quatrième fois, mais qui sont une merveilleuse illustration de ce que Jésus-Christ nous propose. Et vous avez remarqué que c'était pour le peuple d'Israël, mais c'était aussi pour l'immigrant. C'est-à-dire que c'était disponible pour tous. Et de même, le salut en Christ, il n'est pas seulement pour les enfants de chrétiens ou les gens qui sont nés dans un pays entre guillemets chrétien. Le salut en Christ, il est pour tous les hommes, toutes les femmes du monde. Le chapitre 21 continue. On avait vu que la tribu des Lévites, eux, n'avaient pas eu de grand territoire qui leur avait été accordé, attribué, parce que leur héritage, c'était leur service. Et on a rappelé qu'en fait, le service, servir Dieu, c'est une chose merveilleuse. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait prendre comme quelque chose d'embêtant, qui interfère avec notre vie. Mais au contraire, si on s'y donne, et si on a la foi dans ce que dit la parole de Dieu, on va voir que quand on donne, c'est là qu'on reçoit. Et si vous donnez du temps pour peindre le local, si vous donnez du temps pour servir, on va avoir besoin de beaucoup d'aide. On aimerait bien reprendre les petites collations après le culte qu'on ne pouvait pas faire ici. On va peut-être faire des duplications de cassettes. On va vendre des livres. On va pouvoir avoir un dépôt-vente de livres. Et c'est pas moi qui vais pouvoir faire tout ça. Donc, mais non. Donc si le Seigneur continue à vous toucher, sachez que servir Dieu, c'est une bénédiction. c'est pas une corvée. C'est pas éplucher les patates à la caserne. C'est peut-être faire pire. Mais quand on le fait pour le Seigneur, ça prend une toute autre dimension. Quand j'étais jeune chrétien, je vous l'ai dit, je m'étais porté volontaire pour transporter des handicapés dans des bus américains, là, les vieux bus jaunes. Là. Et en fait, j'avais vraiment l'impression qu'ils ne pouvaient pas trop parler, ils ne pouvaient pas trop bouger. Et j'avais l'impression que c'était moi qui faisais quelque chose pour eux. Alors qu'en fait, très rapidement, j'ai vu qu'ils me rendaient beaucoup plus que je pouvais leur donner par leur joie, leur amitié, leurs expressions, leur intérêt pour moi. C'est quelque chose de formidable. Et je vous invite vraiment à faire ce pas de foi, à vous engager pour servir. Et ne serait-ce que même, combien de fois ici, malheureusement, on commence à descendre les affaires et il y a Nancy, Tonio et quelques personnes qui sont là. Ça prend rien. Vous... Encore. Que lorsqu'ils viennent à Calvary Chapel Nice, ils se sentent qu'on s'intéresse à eux, qu'on va arrêter les conversations avec nos amis pour aller leur dire bonjour, pour leur souhaiter la bienvenue au nom de Seigneur. On a le Seigneur nous donne une occasion formidable. Il nous met en transition aussi, il nous met un peu un défi. Mais je crois que nous sommes tous des Lévites. Paul aimait bien des fois s'amuser à m'appeler le révérend. Et je disais, il n'y a pas de révérend ici. Nous sommes tous des révérends. Révérend, c'est un terme anglican, anglo-saxon pour désigner le pasteur. Il y a un terme de respect formel qui est tout à fait non biblique. Parce que la Bible dit que nous sommes tous des prêtres. Si nous sommes sauvés, il a fait de nous une nation de... Il est dit dans 2 Pierre 1,9, je crois. Et ce que Dieu reprochait à l'Église, à certaines églises dans l'Apocalypse, c'est justement d'avoir fait une distinction entre le clergé et les fidèles. Ça, c'est une notion qui n'est pas biblique du tout. Elle était biblique au début, lorsqu'il y avait les Lévites, on va en reparler, qui étaient chargés du ministère, mais ça c'était pour nous montrer en quoi consistait le travail de tout chrétien. Et donc 2 Pierre 1,9, et ben Jacques Pierre 2,9, voilà, c'est donc, non, 2 Pierre 1,9. Par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Un sacerdoce royal, c'est-à-dire un groupe de prêtres. Nous sommes des prêtres, que nous le voulions ou non. Un prêtre, c'est quelqu'un qui, en fait, est un intermédiaire entre l'homme et Dieu, ou entre Dieu et l'homme, quelqu'un qui met en relation Dieu et l'homme, et l'homme et Dieu, à Dieu. Et non plus une barrière, une hiérarchie. Et donc nous sommes tous appelés à servir en tant que chrétiens. Alors vous vous souvenez que les prêtres étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des prêtres. Alors, on recommence. Abraham, il a eu 2 enfants qui s'appelaient comment ? Ishmaël avec Agar et puis Isaac avec Sarah. Isaac a eu 2 enfants, Ésaü et Jacob. Jacob a eu plusieurs enfants, dont un de ses enfants s'appelait Lévi. Lévi a eu des enfants qui s'appelaient Gershon. Un s'appelait Gershon, l'autre Kehat ou Kohat et l'autre Merari. Dans la famille de Kohat, il y a eu Amram et d'autres fils, et Amram a eu pour enfants Aaron, Moïse et Myriam. Et les prêtres, parmi les Lévites, venaient de la descendance d'Aaron. Donc on voit qu'il y avait plein de Lévites qui n'étaient pas des prêtres au sens propre. Ils servaient tous, On avait vu en étudiant le livre des Nombres que la famille de Kehath, eux, s'occupait des objets sacrés. La famille de Gershon, y portait la toile de tente. Merari, eux, y portaient les piquets, grosso modo. Mais tous avaient leur rôle et tous jouaient un rôle, mais ils n'étaient pas les prêtres qui officiaient dans le Saint des Saints, dans le lieu saint, dans le parvis pour présenter les offrandes, etc. Ça, c'était réservé aux descendants d'Aaron. Et ces Lévites, ils se retrouvent avec 42 villes, plus ces 6 villes de refuge, dont on a déjà parlé. Et ces 48 villes, quand on les voit, on voit qu'en fait, ils étaient dispersés un peu partout dans le territoire d'Israël. On ne va pas lire en détail, on va juste lire les 3 premiers versets. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Noun, et des chefs de famille des tribus des Israélites. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent: l'Éternel leur a donné par l'intermédiaire de Moïse de nous assigner des villes pour habitation et leurs abords pour notre bétail. Les Israélites donnèrent alors aux Lévites sur leur héritage les villes suivantes et leurs abords d'après l'ordre de l'Éternel. Suit la liste détaillée des 42 autres villes qui étaient données à ces Lévites. Verset 41, total des villes des Lévites, ils en avaient 42 plus 6, 48. Et ils pouvaient donc habiter dans ces villes et élever un peu de bétail pour le lait. Et c'était leur héritage, en fait, terrestre, c'était peu de choses par rapport à leur héritage spirituel qui était le service de Dieu. Une idée qui est très importante, c'est que pour servir le peuple d'Israël, les Lévites devaient être vraiment dispersés dans le pays. Et ça nous donne l'analogie avec le sel. Le sel, Jésus nous a dit: vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous avons un rôle à jouer dans le monde qui nous entoure. Vous connaissez certaines des propriétés du sel. Le sel donne du goût aux aliments. Quand quelque chose n'a pas du tout de sel, souvent on dit que c'est très fade, quand c'est pas fadasse. Même Job disait dans le chapitre 6, verset 6, « Peut-on manger ce qui est fade sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf ?» Ça, c'est pas un verset à lire lorsque vous êtes en train de faire un régime sans sel, mais c'est vrai que le sel donne du relief gustatif, ça donne de l'intérêt. Le sel évite aussi la corruption. Dans l'ancien temps, il n'y a pas si longtemps, lorsqu'il n'y avait pas encore les techniques de réfrigération ou de mise en conserve, la seule façon de conserver les aliments, c'était de les saler. D'où les anchois qu'on trouve encore dans les pizzas. Ça, c'est des vieilles techniques de préservation de la nourriture. Et bien sûr, le sel, Jésus disait, s'il perd sa saveur, à quoi bon essayer d'assaisonner avec ? Et il disait, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Paul nous dit que notre conversation doit être mêlé de sel. Le sel, c'est aussi un symbole de la tenue d'une promesse. Dans le Lévitique, toutes les offrandes qui étaient présentées en oblation, il fallait mettre du sel dessus. Et ça voulait dire que c'était un engagement qu'une promesse allait être tenue, que le sacrifice allait vraiment faire son effet. Le sel est stable même dans une forte chaleur, ils ne font qu'à 800 degrés, se volatilise vers 1500, en principe c'est au-delà des températures de la cuisinière. Et l'illustration, c'est que nous aussi, nous devons éviter la corruption du monde qui nous entoure. Par l'attachement aux valeurs de la Bible, nous devons préserver le monde qui nous entoure d'une plus grande corruption. Et souvent, c'est vrai que Lorsqu'on regarde aujourd'hui, on peut dire que l'Église n'a pas fait cette œuvre. On a l'impression que la corruption du dehors, elle entre dans l'Église. C'est parce que nous n'avons pas obéi la parole de Dieu, nous n'avons pas été ceux qui prennent la parole lorsque quelque chose ne va pas. Je vous invite, partout où vous travaillez, dans vos quartiers, à vraiment être actif et à parler au nom de Dieu pour ce qui est bien. Ésaïe disait que ce qui est le plus terrible, c'est lorsque les gens commencent à appeler mal le bien et bien le mal. Il n'y a plus de repères, et c'est notre société aujourd'hui, on en parlait pour la peine de mort, pour l'avortement, il n'y a plus de repères. Et c'est parce que l'Église n'a pas joué son rôle de sel pour préserver de la corruption. Il arrivera un temps où l'Esprit Saint sera retiré, et lorsque là tout qui habite l'Église sera retiré avec l'Église, et là tout partira vraiment en live, la corruption atteindra, l'iniquité sera telle qu'elle n'a jamais été, même si aujourd'hui on peut la voir de partout. Et finalement, verset 43, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Relisons ce dernier verset. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, certaines ne restent, non, aucune ne resta sans effet. Quelques-unes s'accomplirent, non, toutes s'accomplirent. Toutes les promesses de Dieu pour Israël se sont accomplies. Que veut dire Israël? Souvenez, ça avait été le nom donné à Jacob, qui est. Le nom voulait dire usurpateur, parce qu'il avait, dans le ventre de sa mère, il avait retenu le pied d'Ésaü pour pouvoir sortir et être déclaré l'aîné. Israël, Jacob avait été renommé Israël par Dieu après son combat contre l'ange de l'Éternel, son combat qu'il avait mené, où l'ange avait dû lui démettre la hanche et lui laisser cette claudication, le fait qu'il boitait, comme un symbole lui rappelant qu'il avait lutté avec Dieu, mais Dieu avait prévalu. Israël, ça veut dire Dieu prévaut, ou ça veut dire aussi, une autre façon de le voir, c'est gouverné par Dieu. Donc lorsqu'il est dit que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplir, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison de celui qui est gouverné par Dieu, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplir. Autrement dit, toutes les promesses de Dieu pour Israël, toutes les promesses de Dieu dans la Bible, sont pour le croyant qui est gouverné par Dieu. Et elles s'accompliront, elles vont s'accomplir. Dieu a été fidèle à toutes ses promesses. Tout ce que Jésus avait dit qu'il ferait, il l'a fait. Pas une de ses promesses n'a échoué. Vous pouvez compter sur la parole de Dieu. Vous vous souvenez, lorsque Balaam essayait de maudire Israël à la demande de Balak, il n'arrivait qu'à sortir des bénédictions, et il disait qu'on ne pouvait pas changer. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? On peut être sûr que tout ce qui est dans la parole de Dieu va s'accomplir. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et on se dit, la terre quand même, ça, c'est costaud, c'est lourd, c'est grand, plein. Ça va passer, mais la parole de Dieu, elle va rester. D'où l'importance de la connaître, d'où l'importance de la méditer jour et nuit. Vous vous rappelez, c'est celui qui va avoir du succès, c'est celui qui va méditer jour et nuit sur la parole du Seigneur. On a chanté tout à l'heure un chant qu'on chantait souvent à l'époque de Paul, quand il était à Nice. Ton saint nom, c'est ton nom que nous louons. Et la Bible nous apprend que le nom de Dieu, c'est une chose merveilleuse, c'est une chose redoutable, c'est plein de puissance, c'est impressionnant, c'est une des choses les plus dignes de respect dans tout l'univers. Un des 10 commandements, c'est « Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ». Car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra en vain son nom. Le psaume 119, 111, pardon, nous dit « Son nom est saint et redoutable. Rendez gloire au nom de l'Éternel » dans une chronique. On l'a rappelé, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et s'y trouve hors d'atteinte. Le prophète Joël a dit les paroles qui ont été reprises par Paul dans Romains 10. « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Eh bien, si majestueux, si fantastique, si impressionnant que soit le nom de Dieu, la Bible nous apprend que Dieu honore sa parole encore plus que son nom. Est-ce que vous le saviez, ça? Le nom de Dieu, Dieu l'honore il honore sa parole au-dessus de son nom. C'est dans le psaume 138, 2, la version à la colombe ne rend pas bien ces paroles. « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom. » À cause de ta bienveillance et de ta vérité, car tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. » Ça, c'est une traduction suivant un texte. Par contre, la Bible Darby dit « Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. » Autrement dit, Dieu, sa parole, c'est sacré. Bien sûr, c'est sacré. Mais vraiment, on peut construire notre vie dessus. On peut vraiment compter sur la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient pour s'encourager, des réflexions profondes, des méditations poétiques et encourageantes sur l'humanité, l'amour d'un... Non, c'est la vérité. On peut compter sur la parole de Dieu. On est même à une époque où on peut voir des accomplissements de la parole de Dieu que nos prédécesseurs ne pouvaient qu'espérer voir arriver. Le fait qu'Israël était rétabli en un seul territoire, en un seul pays, ça remonte aux prophéties de la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Ézéchiel 36, 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai sur votre territoire. » C'est ce qui est en train de se produire depuis janvier 48. « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. » Vous vous souvenez qu'à l'époque du prophète, il y avait une séparation entre le nord et le sud. Le royaume avait été divisé. Et cette promesse qu'il n'y aurait pas deux royaumes, il n'y a pas l'Israël du nord et l'Israël du sud, il y a un seul pays, une seule nation d'Israël. Et ça, c'est qu'un tout petit exemple des promesses que Dieu accomplit. Et toutes les promesses de la parole de Dieu, elles sont là. Elles sont là. Mais les promesses de Dieu, je l'ai dit, elles sont conditionnelles. Elles ont une condition. Là, souvent, il y a des conditions. Celui qui marche dans mes voies aura ceci. Ça, c'est une condition spécifique. Mais l'autre condition qui est sous-entendue tout le temps, c'est la foi dans ses promesses. Dans Hébreux 4, 2, on va regarder un peu le livre aux Hébreux pour terminer. La bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servirent de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Il parle des Israélites qui avaient manqué de foi dans le désert pour entrer en terre promise et qui avaient fini par mourir dans le désert, mourir dans les sables du désert. Et là, ils avaient la même bonne nouvelle, l'amour de Dieu, le plan de Dieu avait été annoncé, mais ils ne l'avaient pas reçu parce qu'il leur manquait la foi. Ce n'est pas le tout d'avoir la bonne nouvelle, il faut aussi la foi. Un peu plus loin, dans Hébreux 6, 12, on voit un autre ingrédient. Ne soyez pas nonchalants. Il ne faut pas être, peut-être, oui, le Seigneur a dit, un jour, peut-être. Ne soyez pas nonchalants, mais imitez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Verset 15, c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Donc on voit deux autres... Une fois qu'on a la parole de Dieu, il faut avoir la foi, que c'est vraiment la vérité, que ça va arriver. Et un autre élément très important, c'est la patience. Est-ce que nous sommes patients pour voir les promesses de Dieu arriver à leur terme? Il faut, Abraham est cité comme un exemple, il faut être patient dans l'attente de la réalisation de nos promesses. Ces promesses, on peut les voir à l'avance et on se dit, c'est la parole de Dieu, j'y crois, je vais compter sur elle. Ou bien on peut dire, regardez en arrière et dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Quand on grandit dans la vie, quand on prend de l'âge, on peut voir toutes les merveilles que le Seigneur a fait dans notre vie. Et c'était intéressant, la semaine dernière, j'ai amené Tonio pour trouver un logement sur Marseille. Il va entrer dans la même école d'ingénieur que j'ai faite il y a 30 ans. Et se retrouver là-bas, j'étais pas retourné à Marseille depuis, peut-être une fois, une demi-journée. De me retrouver dans cette ambiance, on voit qu'en fait la vie va très vite. Il y a 30 ans, ça me semble hier, j'étais comme Tonio et je venais découvrir Marseille et la vie en école d'ingénieur. Et en même temps, je pouvais voir la vie que le Seigneur, comment il m'a guidé, toutes les bonnes choses qu'il a faites dans ma vie. Il m'a d'abord appelé à lui parce qu'à l'époque je ne le connaissais pas. Mais de voir comment il bénit si nous savons attendre. Si nous avons la foi que ces promesses sont la vérité, celui qui peut reconstituer la nation d'Israël, vous croyez qu'il ne peut pas rétablir, restaurer votre mariage? Est-ce qu'il ne peut pas le solidifier? Est-ce qu'il ne peut pas apporter la personne que vous attendez pour vivre? Est-ce qu'il ne peut pas guérir la maladie dont vous ne voulez pas? Peut-être qu'il a un plan, que ce ne soit pas la guérison, mais vous pouvez lui faire totalement confiance. Est-ce que vous en êtes convaincu de ça? Ou est-ce que vous vous dites, oui, mais... ça fait un moment que ça dure. Je vais quand même envoyer quelque chose à ces petites annonces-là. Il y a ces rencontres maintenant rapides sur Internet. Ouais, le Seigneur, je veux bien, mais depuis le temps, l'horloge biologique, là, elle fait tic-tac. Hein, c'est votre métier, vos enfants qui peut-être ne vont pas dans les voies que vous souhaitez. Je vous invite vraiment à souligner ce verset, Josué 21:45. Toutes les bonnes paroles de Dieu, toute la parole de Dieu s'accomplit. Et si vous êtes en Christ, si vous êtes dans cette cité de refuge, toutes les bénédictions qui sont promises par Dieu, vous allez les voir dans votre vie. C'est ça la vie abondante. Non seulement il y a la vie éternelle, mais ici-bas, vous allez avoir une vie riche même en dépit des problèmes, des tracas, des maladies, votre vie va compter pour quelque chose. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, à la maison de Gloria, à la maison de Paul, à la maison de Zoé, à la maison de Tonio, à la maison de Ronnie, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplir. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Que tu magnifies au-delà de ton nom, Seigneur. Tu es un Dieu de relations, de communication, d'amour, Seigneur. Et ta parole, c'est quelque chose d'absolument sacré, quelque chose d'absolument certain sur lequel nous pouvons fonder notre vie, Seigneur. Donne-nous une soif de la connaître, Seigneur. Donne-nous une soif de la comprendre, de la mettre en pratique, de la partager avec les autres, Seigneur. De la faire connaître. Parce que tu nous promets que toutes ces promesses, elles vont arriver, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons comme du sel qui perd sa saveur parce que nous acceptons le compromis, nous laissons tenter par le monde et les raccourcis, entre guillemets, que le monde nous offre. Seigneur, aide-nous à te faire entièrement confiance. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Par notre foi et notre patience, Seigneur. Aide-nous à vivre ces choses dans l'amour les uns pour les autres et pour ceux qui sont au dehors, Seigneur. Seigneur, lorsque nous réalisons toutes ces promesses, Seigneur, nous te demandons pardon de ne même pas les connaître, bien des fois, ou ne pas les approprier, Seigneur. Ne permets pas que cela dure dans nos vies, Seigneur, mais instruis-nous, Seigneur, et Remplis-nous de foi, Seigneur. Sans la foi, nous savons que nous ne pouvons pas te plaire. Tout le reste est comme du vent, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies cette semaine. Et Seigneur, nous te remettons aussi le déménagement et l'installation dans ces nouveaux locaux, Seigneur. Nous avons vu que tu bénis la patience, Seigneur. Et nous te remercions pour tous les locaux que nous avions vus et que nous voulions, Seigneur, mais que tu avais bloqués parce que tu avais quelque chose de mieux, Seigneur. Sois glorifié. Par le nom de Jésus, nous prions. Et tous les saints répondirent Amen. Amen.